Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité d'ouvrir ce livre extraordinaire. Nous sommes des privilégiés. Et je pense que c'est le jour où nous serons privés de cette parole écrite que nombreux seront les croyants qui vont avoir des regrets. Vous savez que cette Bible qui nous est offerte maintenant sous des versions françaises de plus en plus nombreuses, nous pouvons en être privés n'importe quand. Nous sommes dans un monde extrêmement fragile où de plus en plus le disciple de Jésus-Christ marche à contre-courant, où de plus en plus, qu'il le veuille ou non, il est marginalisé à quelque part. Et nous allons peut-être au-devant de temps très difficiles. Ou alors, certains auront des regrets, parce qu'ils n'auront pas profité du temps pour serrer ce message sur leur cœur et dans leur cœur. Alors que Dieu nous bénisse les uns et les autres pour ce temps qu'il nous offre au contact de sa parole. Nous allons tout de suite, parce que le thème est immense, nous allons l'effleurer. Il est d'une telle richesse. Demander à mon épouse, mon plus grand souci lorsque je travaille à la préparation d'études, préparation qui dure depuis des années d'ailleurs, c'est toujours en cours, mon plus grand souci, c'est de répondre à cette simple question, mais quoi choisir dans tout ce qui est dit dans les Écritures sur le thème qui doit être abordé. Donc il va falloir sélectionner, j'ai déjà beaucoup sélectionné ces deux derniers jours dans mon bureau, et je pense que je vais encore sélectionner au fil de notre avancée dans l'étude sur un thème fondamental dans les Écritures et sur lequel je ne crois même pas que nous ayons un seul livre qui ne traite que de lui en langue française. Cette question du monde, de l'univers, de la pensée. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, et je vous encourage à suivre cette courte lecture. Romains chapitre 12, les trois premiers versets. Alors, dans un premier temps, je le lis dans une de nos versions, la version second revue de la Société biblique de Genève, qui dit donc ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Nous allons revenir très vite à ce texte, mais simplement un tout petit échantillon dans la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe, donc 2 Corinthiens, chapitre 10, 2 Corinthiens 10, verset 5. Une affirmation forte qui est aussi notre objectif d'ici dimanche. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tel est notre objectif. Et nous ne faisons en cela que nous inscrire dans le droit fil de la volonté de Dieu. Alors, je vais maintenant reprendre Romains 12, mais je vais vous en lire les trois premiers versets tels qu'ils figurent dans la transcription d'Alfred Kuhn appelée « Parole vivante » que je pense vous connaissez sans doute. Donc vous pouvez suivre et écouter d'une autre manière. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ceci pour les deux premiers versets. Et certains d'entre vous se sont peut-être posé la question, mais pourquoi a-t-il ajouté le verset 3 qui semble ouvrir avec un nouveau paragraphe une pensée un peu différente? Mais tout simplement parce que dans le texte original, il y a un jeu de mots. Un jeu de mots qui rend d'ailleurs le texte grec assez lourd. Heureusement qu'on n'a pas traduit tel quel, parce que ce serait un petit peu indigeste. Mais je vais tout de même vous le donner tel quel, hein, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de ne pas penser orgueilleusement à côté de ce qu'il faut penser, mais de penser en vue d'une pensée saine. Vous voyez que si nous devions lire ça à l'heure du petit déjeuner, nous aurions quelques problèmes. Évident, c'est le problème du littéralisme des Écritures. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un lien évident entre le verset 2 et le verset 3. Au verset 2, il est question de donner à nos pensées une nouvelle orientation. Et au verset 3, nous avons là déjà une précision importante concernant la pensée orgueilleuse par rapport à la pensée saine. En particulier, c'est la suite du texte qui nous l'indique, dans le cadre de l'exercice des dons de service dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous aurions pu emprunter cette portion du parcours biblique sur la pensée dans le domaine de l'exercice des dons de service, mais nous n'irons pas tout à fait dans cette direction. Il y a beaucoup d'autres choses importantes à voir. Romains 12, 1 à 2, et donc 1 à 3, par conséquent, puisqu'il y a ce lien très fort entre le verset 2 et le verset 3, Romains 12 introduit donc dans ses premiers versets la partie pratique de cette épître majeure du Nouveau Testament. Non pas qu'il y ait quantité de textes dans le Nouveau Testament qui soient secondaires, sur lesquels on puisse passer, considérant qu'ils apportent très peu à la vie chrétienne. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Il y a dans le Nouveau Testament des lettres qui sont particulièrement stratégiques. Ces lettres majeures, stratégiques, le sont parce que l'apôtre Paul, en bon pédagogue, merveilleusement inspiré par le Saint-Esprit, les a adressés à des églises qui se situaient dans des villes stratégiques. Ici, nous avons l'Épître aux Romains, et qui sait si Rome était cité stratégique pour l'ensemble de l'Empire romain, et qui sait donc si l'Église de Rome était une église stratégique en ce qui concernait l'enseignement, le rayonnement, le témoignage. L'autre épître stratégique et majeure, ce sera l'épître aux Éphésiens. parce que Éphèse va représenter aussi un pôle très très important dans l'Empire romain, une grande capitale de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie d'Europe, une ville très bien située, cosmopolite, internationale, un axe entre l'Est et l'Ouest, etc., etc., n'est-ce pas ? Et là aussi, l'Épître aux Éphésiens contient un message particulièrement fondamental, un exposé remarquable, avec d'ailleurs le même principe que l'Épître aux Romains, une partie doctrinale, on pose la doctrine, et sur cette partie doctrinale, on avance dans la marche pratique. Nous devrions toujours nous inspirer de cette approche des Écritures, propre à l'apôtre Paul, qui était aussi la force de l'enseignement du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, greffé sur la vie pratique, mais aussi avec une matière doctrinale solide. Nous entrons donc dans la partie pratique de cette cathédrale de la foi chrétienne. Et Romains 12, 1 et 2 en particulier, c'est un petit peu un carillon. C'est un peu un carillon qui sonne à toute volée, pas le ding-ding-dong dont nous avons l'habitude, mais le don, donc, don. Retenez ça. Moi, je l'ai écrit en grandes lettres au début de Romains 12. Don, D-O-N, suivi de donc, D-O-N-C, suivi de don, D-O-N. Et en fait, c'est là un merveilleux résumé de cette introduction à la partie pratique de cet épître romain. Don, donc, don. Je vous exhorte, je vous encourage, donc, vous avez le donc là, il est là. D'ailleurs, quelqu'un a dit, le chrétien est un donc. C'est incroyable la place que ces petites conjonctions occupent dans le Nouveau Testament, et en particulier la conjonction « donc » qui parcourt toute la première partie de l'Épître aux Romains. Il y a presque un relais, on passe de « donc » en « donc » et on arrive ici à un sommet dans ce « donc ». Ce « donc » est donc le lien entre deux « dons ». Le premier est sous-entendu dans l'expression « par les compassions de Dieu ». Je vous exhorte donc, et frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant par les compassions de Dieu. Parce que Dieu vous a offert, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, le don suprême. Puisqu'il a exprimé sa générosité à son plus haut niveau, non seulement dans le miracle de l'incarnation, mais dans cette vie extraordinaire de son Fils bien-aimé, dans cette obéissance parfaite, dans cette soumission d'humble serviteur, aboutissant aux souffrances et à la mort expiatoire, puisqu'il s'est donné pour vous entièrement, puisqu'il vous a tant aimé, puisqu'il a fait preuve d'une telle compassion à votre égard, puisque rien désormais ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, fin de Romains chapitre 8, alors, de votre côté, offrez-vous dans la totalité de votre personne en don. Mettez votre vie tout entière à son service. Don de sa part, donc don de ma personne. Alors nous aurions pu passer beaucoup de temps ce soir à rééplucher en particulier les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains qui nous montrent le déploiement des compassions de Dieu. Ces 4 grandes divisions, n'est-ce pas, qui partent de la condamnation de l'humanité tout entière, gens religieux, gens irreligieux, juifs et grecs, qui que ce soit, tous ont péché. Et on manquait le cible de la beauté glorieuse de Dieu. Et puis ce coup de trompette libérateur qui subitement dans Romains 3 retentit dans cette obscurité tellement ténébreuse, la condamnation de toute l'humanité, lorsqu'il est question de la justification. C'est-à-dire cette possibilité qui m'est offerte d'être acquitté, d'être innocenté, d'être considéré comme si je n'avais jamais fauté, d'être déclaré totalement juste aux yeux du Dieu parfait. Dans la mesure où je viens au pied de la croix plaider coupable, parce que Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation qui pesait sur moi. Le message extraordinaire de la justification qui a tellement bouleversé un certain Martin Luther, un certain John Wesley et tant d'autres hommes qui, enflammés par cette révélation subite dans leur cœur du sens de la justification, ont ensuite proclamé ce message qui a bouleversé l'Europe tout entière, pour ne parler que d'elle, mais ensuite est allée bien au-delà des mers. Condamnation, justification. Vous êtes déclaré juste, vous êtes innocenté, vous êtes vu juste par Dieu, innocent, au travers de son Fils Jésus-Christ, dans la mesure où vous avez revêtu Christ. Maintenant, grandissez. Grandissez, croissez dans cette vie nouvelle avec lui. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vivez ce processus qui s'appelle la sanctification. Grand thème, troisième partie de ce premier pan de l'Épître aux Romains. Et puis enfin, ce qui est encore devant nous, ce que nous attendons, la rédemption de nos corps, la glorification. Ce moment où notre salut ne sera plus un salut en espérance, mais un salut totalement acquis, puisqu'il touchera aussi notre corps par le biais de cette résurrection que nous attendons. Ça, c'est le grand message des huit premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Condamnation, justification, sanctification, glorification. Et au sommet de cette glorification, ce chant magnifique que nous avons tout juste entreaperçu en disant que rien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le chrétien est donc un don. Un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé dans le sud de la France en particulier, il y a déjà un certain nombre de décennies en arrière, a dit ceci: tout le christianisme se trouve résumé dans ce seul mot, donc. Aussi suggérons-nous le choix de la devise « donc » à tous ceux qui se préoccupent de découvrir une formule modèle de consécration. Les quatre lettres de cette brève et expressive conjonction pourront ainsi, une fois bien comprises, devenir la petite clé miraculeuse qui leur ouvrira l'accès des plus grands trésors de notre Dieu. Donc, nous allons garder cette expression dans notre pensée parce qu'elle est extrêmement importante. Donc, c'est le motif et le moteur de la consécration du croyant. Romains 12, 1 et 2, c'est la condition fondamentale d'une conduite à la gloire du Seigneur dans l'Église et dans le monde. Et il y a dans ces deux premiers versets deux dimensions. Dans le verset premier, une dimension extérieure, une dimension visible. Offrez vos corps. C'est-à-dire offrez vos personnes. Le terme corps est pris dans son sens le plus fort. Le plus totalitaire. Offrez la totalité de votre personne. Offrez votre personne tout entière. Faites-le sans réserve. Faites-le une fois pour toutes. Sans réserve mentale. Sans calcul. Non pas pour un temps. D'ailleurs, le verbe utilisé ici, l'impératif, l'infinitif, est utilisé à un temps qui laisse entendre. C'est un temps de l'histoire, c'est un temps de l'instantané aussi. Faites-le de tout votre cœur une fois pour toutes. Ne dites pas « je vais le faire pour 6 mois ». Puis dans 6 mois, je vais faire quelque chose qui ne plaira pas au Seigneur parce que je l'ai déjà prévu dans mon petit plan à moi, n'est-ce pas ? Donc, verset premier, dimension extérieure, l'offrande du corps, de notre personne tout entière, sans réserve, une fois pour toutes. Le verset 2. C'est la dimension intérieure. Il y a d'ailleurs un petit lien entre le verset 1er et le verset 2 qui n'apparaît pas toujours dans nos traductions. Il y a aussi une petite conjonction de coordination. On devrait lire « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable et ne vous conformez pas au siècle présent. » Et offrez au corps entièrement, mais surtout, n'oubliez pas la dimension intérieure de l'offrande. Que ce ne soit pas seulement le visible, mais l'invisible. Et l'invisible, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus, une expérience spirituelle qui doit se poursuivre sans cesse. C'est littéralement une métamorphose continuelle. C'est le terme qui est utilisé. Soyez transformés, soyez transfigurés, soyez métamorphosés. Et le terme est extrêmement fort parce que c'est un terme qui va jusqu'à la racine de la personne. Comme dans la transfiguration du Seigneur, c'est le même terme qui est utilisé quand Jésus a été transfiguré sur la montagne. Soyez transfigurés de manière continuelle et de manière progressive. Le temps qui est utilisé ici, soyez transfigurés, est un temps qui indique la durée. En permanence, soyez métamorphosés, qu'il y ait une révolution permanente en vous, dans votre tête, allons-nous dire. Parce que cela va avoir de multiples répercussions sur le corps. Lien très très étroit entre ces deux versets. N'oubliez pas de mettre vos têtes, disons-le encore différemment, vos cerveaux sur l'autel, jour après jour. Et oui, je suis très frappé. Quelqu'un m'en parlait ces derniers jours. Il me disait, mais c'est tellement dommage que nous ayons très peu d'enseignements dans les églises et très peu de littérature sur cet aspect qui est pourtant fondamental, le cerveau. Ce qui se passe là-dedans. C'est par là que tout commence. C'est ce que nous allons voir ce soir dans ce qui est essentiellement une introduction générale. On va voir des choses pratiques, mais il faut quand même bâtir sur une base doctrinale. Mais c'est important. C'est important ce que nous disons. Je pense à cette anecdote souvent racontée d'une petite fille appelée Anne, qui un jour était à l'arrière de la voiture conduite par son papa. Et pendant que papa conduisait, je ne sais pas à quelle vitesse, Anne était debout sur la banquette arrière et faisait des entrechats. Son papa était quelque peu insécurisé de voir sa fillette, Anne, se livrer à la danse. Et finalement, à un moment donné, il a dit, écoute, Anne, s'il te plaît, assieds-toi, ce que tu fais là est très très dangereux. Imagine si je viens à freiner. Mais Anne, en enfant de son siècle, de passer outre les avertissements pleins d'amour de son papa. Si bien que papa s'est senti progressivement de plus en plus piétiné dans son autorité de père. Il a élevé la voix, il s'est répété une fois, deux fois, et Anne, bien sûr, continuait de plus belle. Si bien que finalement, il a vraiment haussé sa voix au paroxysme possible dans la voiture et il a dit « Anne, si tu n'arrêtes pas immédiatement, si tu ne t'assois pas immédiatement, j'arrête la voiture, je sors et tu auras une fessée. » Anne s'est aplatie. Et le père a recommencé à appuyer sur l'accélérateur, fier d'avoir retrouvé son autorité. Et ça a duré pendant quelques minutes. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, il ne voyait même pas l'enfant. À plat. Jusqu'à un moment où une petite voix a retenti, tandis qu'un joli petit minois se montrait entre les deux fauteuils avant. C'était Anne. Anne qui a dit, « Papa chéri, j'ai quelque chose à te dire. »« Mais vas-y, ma chérie, qu'est-ce que tu veux me dire ?»« Papa chéri, tu sais, dans ma tête, je suis toujours debout. » C'est pour cela qu'il y a Romains 12, 1 et 2. 1 et 2. Parce qu'il y a des croyants qui obéissent à Romains 12, 1. Et on dit, qu'est-ce qu'ils sont consacrés? Le problème, c'est que dans la tête, la musique est autre. Vous comprenez? Ça, c'est notre problème. C'est ce qui a engendré le formalisme, la piété pharisaïque, et nous pourrions en ajouter. Et ne vous coulez pas dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde, mais laissez-vous métamorphoser par ce renouvellement permanent de votre tête, de votre cœur, comme nous allons le dire. Notre tête. Notre tête, bien sûr, avec ses oreilles, ses yeux, sa bouche, qui sont à mettre, c'est vrai, au service du Seigneur. Mais il y a cette partie invisible, le cerveau. Le terme n'est pas dans les Écritures, mais la réalité de cette partie invisible est présente absolument partout. Et je suis très frappé, en ayant beaucoup étudié cette question depuis pas mal d'années, lorsque je constate la quantité de termes impressionnantes qui tournent autour du cerveau dans les Écritures. Intelligence, réflexion, pensée, mémoire, mentalité, intention, sentiment, estimer, considérer, s'imaginer, comprendre, vouloir, vous pourriez vous amuser. Tenez, je vous offre la possibilité de faire des devoirs volontaires chez vous, en ouvrant l'épître aux Philippiens du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, et en indiquant simplement sur une feuille tous les passages dans lesquels il est question de ce monde qui tourne autour de la pensée. J'ai relevé, tenez-vous bien, simplement dans le texte original, dans le texte grec, 17 mots grecs différents, hein, qui tournent tous autour de la pensée et de la compréhension, simplement dans cette petite épître aux Philippiens. 17 dans le Nouveau Testament, 8 dans la seule épître aux Philippiens, pardon, très très centré sur ce monde de la pensée. Et dans Romains 12, au verset 2, vous avez un des termes que j'appellerais volontiers un terme générique, un terme d'où dérive quantité d'autres mots, qui contiennent tous la même racine. Ici, vous avez le mot, je ne sais pas ce que vous avez dans votre version, moi j'ai le mot intelligence. Dans des vieilles versions, vous trouveriez entendement. Dans certaines versions même très actuelles, je pense à la nouvelle version de Jérusalem, le mot jugement. Dans une autre version, vous verriez le mot esprit, pour parler de l'esprit de l'homme. Dans certaines versions, vous verriez le mot pensée, c'est par exemple le cas de la Bible du Semeur. Dans d'autres, le mot mentalité, c'est un tout petit mot, le mot nous, N-O-U-S, le mot grec traduit en français, nous, tout petit mot. Mais c'est un mot d'une extrême richesse, la faculté de percevoir, de comprendre, de raisonner, de ressentir, de juger, d'évaluer, de décider. Tout est là dans ce petit mot. Et dans le fond, nous rejoignons notre thème en disant que dans les Écritures, l'équivalent de notre mot cerveau, ou même de notre mot tête, pourrait être le cœur. Le cœur, bien entendu, dans sa signification biblique la plus fréquente. Je ne sais pas si vous avez été impressionné, mais vous le serez si vous ne l'avez pas encore été, en parcourant les Écritures, de voir le nombre de passages où le mot cœur revient. Ce mot figure plus de 1000 fois dans l'ensemble des Écritures. Et vous savez, quand un mot figure, en tout cas, au moins un millier de fois, c'est un des mots les plus importants de la Bible. Et le paradoxe, j'ai fait ma formation théologique à l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, qui publie depuis longtemps le nouveau dictionnaire biblique dont nous avons une nouvelle édition depuis quelques années. La première édition a été utilisée pendant des années et c'était le seul dictionnaire biblique que nous avions dans le domaine évangélique en langue française. Un dictionnaire biblique, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, il suffit d'en voir l'épaisseur. Eh bien, dans la première édition du nouveau dictionnaire biblique des éditions Emmaüs, figurez-vous que le mot cœur ne s'y trouvait pas. Il n'y avait rien sur le cœur. Alors je bénis Dieu de ce que depuis quelques années, depuis que la nouvelle édition est sortie, ils aient mis alors un bon article solide sur la question du cœur. Un terme aussi important et que nous utilisons souvent en flairant un petit peu le sens. Mais si quelqu'un venait vers vous pour dire « mais qu'est-ce que c'est que le cœur ?» Même après la définition que notre frère tout à l'heure, votre pasteur en a donné tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'on le comprend? C'est quelque chose d'abstrait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le cœur? Alors le cœur, tout d'abord dans les Écritures, c'est la partie la plus profonde de l'homme. C'est le centre même de sa personne. C'est une sorte de QG, de quartier général de la personne humaine. Oh, avec toute une part de mystère, de fonctionnement extrêmement complexe, parce que Dieu est derrière. Et pour aller plus loin, le cœur, c'est le siège, en particulier de la volonté. C'est le siège de la pensée. Et il est intéressant de constater que très souvent dans l'Ancien Testament, et dans la mentalité juive d'ailleurs, c'est intéressant, le mot cœur est étroitement associé à la pensée. Siège de la pensée. Siège de la connaissance. C'est avec ce, nous l'appellerons le moi profond intérieur. Avec ce moi profond intérieur que l'homme connaît, apprécie, juge, choisit, acquiesce ou rejette, prend position, s'oriente, détermine, décide. Vous voyez, c'est important. C'est une sorte de centre de contrôle qui va englober toute la notion, nous l'avons dit, de la pensée, de la raison, de l'intelligence, du jugement, de la volonté et de l'affectivité, de l'affection, mais pas d'abord de l'affectivité. Et nous avons cette expression, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons nos chagrins de cœur, etc., et tout ça tourne autour de l'affectif. Or, l'affectif n'est pas l'élément moteur du cœur. Il est un des éléments, une des composantes de ce quartier général de notre individualité. Mais ne lui donnons pas la place prépondérante qu'il n'a pas dans les Écritures. Certes, l'affectivité a son importance. Heureusement. Mais la dimension de la volonté, la nécessité du discernement, de la connaissance, de savoir apprécier, rejeter ou adopter, tout cela est extrêmement important. Tout ce monde de la pensée que nous commençons à considérer ce soir. Oh, nous avons une preuve de l'importance de ce mot. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et en fait, c'est le générique. Ensuite, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée ne fait que donner quelques éléments fondamentaux, mais qui tous sont englobés dans cette première expression « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». Et d'ailleurs, il y a en hébreu ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire c'est le mot « cœur », mais le mot « cœur » qui est écrit d'une certaine manière pour lui donner un poids particulier, au point que les rabbins, quand ils lisent ce texte, vont le lire de cette manière « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tes deux cœurs ». De tes deux cœurs, pour bien montrer qu'il y a là quelque chose de lourd, qui a du poids, qui est extrêmement important, de la totalité de ton cœur. C'est une manière de dire un superlatif, hein, d'essayer de parler fort. Que la totalité de ton cœur soit utilisée pour aimer le Seigneur ton Dieu. Très important donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de de la vie. Là encore, la transcription qu'en fait Alfred Kuhn est intéressante. Par-dessus tout, écrit-il, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Vous voyez comment il traduit, hein? Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Marc Aurèle, l'a dit, avec lui une multitude d'autres hommes connus, la vie d'un homme est déterminée par ce qu'il pense. Le Bouddha, un homme est le résultat de toutes ses pensées. Et la Bible alors par-dessus tout, Proverbe 23:7, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. J'ai été très frappé récemment de trouver dans un livre cette belle formule, le cœur de tout problème est un problème de cœur. Le cœur de tout problème est un problème de cœur. Nous avons un vieux dicton populaire qui dit « Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Importance fondamentale de la pensée qui ne cesse de fonctionner. Qui sait si en ce moment l'usine fonctionne chez chacun d'entre nous ce soir, hein? Et peut-être d'ailleurs que chez certains, elle fonctionne dans une autre direction. Dieu voit, hein? C'est intéressant. C'est intéressant. Hein, on peut être là et le pasteur de dire « voilà un membre fidèle, hein? » Et dans sa tête, on est en train de regarder le match de football. C'est pas vrai. Dis-moi à quoi tu penses le plus et je te dirai ce que tu es. Dis-moi à quoi tu penses le plus et je te dirai ce que tu es. Il y a d'ailleurs dans l'Épître aux Romains deux passages qui nous montrent que le cœur, que le système de pensée, n'est-ce pas, est fondamental. Le premier passage est dans Romains 1. Versets 21-22, dans cette obscurité, mais cette opacité ténébreuse de la condamnation de toute l'humanité, Romains 1, si vous regardez les versets 21 et 22, donc ils sont donc inexcusables ceux qui refusent Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, c'est intéressant, ou dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est parce que leur cœur a été plongé dans les ténèbres, parce que ça ne marche pas du tout au niveau de leur pensée, qu'ensuite vous avez à partir du verset 24 jusqu'au verset 32 un comportement aberrant, scandaleux, celui de notre société aujourd'hui. Et voyez que l'apôtre Paul lui-même tient dès le début, à mettre en avant l'importance de l'impact du cœur sur le corps. Quand le cœur va mal, le corps commence à fonctionner de travers. Et l'ennemi est fort dans ce domaine pour caricaturer la pensée de Dieu. Par exemple, dans le domaine des relations entre personnes, où l'ennemi dit en permanence aux gens, écoutez, commencez par le corps, et aller vers le cœur. Ayez des relations les uns avec les autres, dans le domaine de la sexualité. Et si ça marche avec le corps, alors unissez vos cœurs. C'est un mensonge. Dans la pensée de Dieu, le cœur précède, gouverne le corps. Dans la pensée diabolique de celui que Luther a appelé le singe de Dieu, c'est le corps qui précède. Et comme il est menteur, bien entendu, vous savez quel est le résultat. Quand on met le corps avant le cœur, vous savez ce qui se passe. On le voit tous les jours autour de nous et hélas, nous l'avons parfois vu dans nos propres vies. Combien ça coûte cher de renverser l'ordre de Dieu. Regardez ensuite dans Romains 3, dans le verdict de Dieu concernant toute l'humanité, verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous le pouvoir du péché, la domination du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est sensé. Nul n'est intelligent. Là, nous avons un dérivé du mot « nous ». Romains 12. C'est-à-dire que cela concerne le cœur, une fois, la mentalité, tout le domaine de la pensée, tout le domaine de la volonté, tout le domaine du raisonnement, du discernement entre le bien et le mal. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et maintenant, à partir de là, on glisse à l'activité du corps. Il n'en est aucun qui fasse le bien, le faire, penser à la main. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous avez remarqué ? Commence par le cœur. Si le cœur est enténébré, tout le reste fonctionne de travers. Et nous aurions pu faire exactement les mêmes constats dans l'Ancien Testament, dans les messages prophétiques, par exemple Ésaïe. Si vous allez dans Ésaïe 58-59, vous verrez tout un texte où Ésaïe montre que le cœur du peuple d'Israël a déraillé. Et parce que le cœur du peuple d'Israël a déraillé, Israël fait des choses avec ses yeux, ses mains, ses pieds, etc., qui sont devenues abominables. C'est un schéma classique des Écritures parce que cela appartient à la pensée de Dieu. Donc il faut que notre intelligence, notre mentalité, nos pensées soient modifiées, soient transformées pour que nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, etc., notre langue, fonctionnent à la gloire de Dieu. Et il faut que notre pensée soit saturée de la pensée de Dieu, imprégnée de la pensée de Dieu. Si nous voulons fonctionner selon la volonté de Dieu. C'est ce que dit Romains 12, 2, n'est-ce pas ? Combien de fois on pose cette question fondamentale, mais comment discerner la volonté de Dieu ? On organise une convention, un camp de jeunes, on met une boîte aux questions. Quelles sont les questions qui viennent systématiquement en premier dans les boîtes aux questions, 9 fois sur 10 ? Comment discerner la volonté de Dieu ? Eh bien, vous avez ici la réponse fondamentale. Offrez votre personne tout entière, mais commencez par accepter ce renouvellement, cette métamorphose, cette révolution dans la tête, pour pouvoir penser comme Dieu pense. Parce que si vous commencez à penser comme Dieu pense, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez pouvoir discerner cette volonté de Dieu dans chaque situation. Et vous allez vous rendre compte que la volonté de Dieu est bonne, parce que nous avons un Dieu bon. Elle est agréable, pas toujours du premier coup à nos yeux, mais avec le recul, on dit Seigneur merci. Et même là où on ne comprend pas, on apprend à dire merci, parce qu'on se rend compte que Dieu est nettement plus intelligent que nous. Et elle est parfaite. Et lorsque nous serons là-haut, nous allons réaliser combien la volonté de Dieu était parfaite, déjà sur la terre. Mais tout cela doit commencer par une révolution dans la tête. Un homme de Dieu d'Afrique du Sud, qui a un ministère remarquable, a écrit ceci. « La remarquable faculté de votre intelligence est un don de Dieu pour réfléchir aux choses célestes, éternelles et infinies. Et je vous invite à la déposer aux pieds de Jésus. Remettez toutes vos facultés intellectuelles entre ses mains, afin qu'il puisse vous enseigner à penser comme l'on pense dans le royaume, comme Jésus lui-même pense. » Si ce soir, en allant nous coucher, au lieu de dire d'abord au Seigneur, « Seigneur Jésus, maîtrise ma langue », nous commencions par lui dire, « Seigneur, je n'ai pas encore mis ma tête sur l'autel. Je n'ai pas encore mis mon cerveau. Mon problème, il est là-dedans. Les autres ne le voient pas. Oh, ils en subissent les conséquences. Seigneur, c'est le monde de mes pensées qui pose le plus de problèmes. » C'est incroyable, quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur l'importance des pensées, c'est incroyable ce que je me suis rendu compte, combien dans ma propre vie, j'étais souvent passé à côté de l'essentiel. Je m'étais attaché à des objectifs importants, certes, mais en oubliant l'essentiel. C'est-à-dire, Seigneur, il faut que là-dedans ça change. Et il faut que ça change continuellement. Le texte le dit, continuellement. Un renouvellement continuel. Ça ne cessera qu'à mon dernier souffle ou au moment
où avec l'Église de Jésus-Christ, je serai rapté en un atome de temps dans sa présence pour l'éternité. Alors, il y a du travail. Alors, simplement, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, je passe là sur certains aspects. Ça a commencé, je l'espère pour chacun d'entre nous, cette révolution dans la tête, ça a commencé à la nouvelle naissance. Vous connaissez ce beau passage d'Ézéchiel 36, 25, 27, n'est-ce pas ? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais vous donner un cœur nouveau. Peut-être qu'on peut rapidement le lire, parce que c'est un passage clé qui était prophétique à cette époque, Ézéchiel 36, 25, 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quel beau texte. Et puis, en plus, tellement imagé, n'est-ce pas ? Quel pédagogue que notre Dieu ! Révolution du cœur. Purification. Purification du cœur. Et j'ai été très frappé, je vais essayer de retrouver même la citation telle qu'elle, parce qu'elle est très intéressante, dans un article traitant de Versailles. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette petite remarque au passage. Suivant à la lettre les recommandations des traités de civilité, donc de la bonne conduite, se laver les mains tous les jours, rarement les pieds, et jamais la tête, siège de la pensée. Le roi et les courtisans prisent fort peu les ablutions. Vous avez compris. Donc Louis XIV ne se lavait jamais la tête. Parce qu'ils étaient le siège de la pensée. De temps en temps, les pieds, ça ne devait pas sentir bon. Rarement, hein. Mais ils se lavaient quand même les mains tous les jours. Alors, le texte ajoute, « Si les cheveux sont affreusement sales et nécessitent l'usage de petites boîtes à poux, P-O-U-X, que l'on dissimule sous la chevelure avec un peu de sang comme appât, les têtes et les corps sont terriblement parfumés. On glisse des petits sachets de musc et d'ambre sous les aisselles, à la taille, aux genoux, et l'on poudre d'abondance les perruques de mille mélanges odorants. » Ben moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est que dans l'Église, on est tenté de faire comme ça. On poudre et saupoudre. Il faut que ça sente bon. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux se laver. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau, transplantation cardiaque. C'est Martin Luther qui l'a dit si bien, trois conversions sont nécessaires. La conversion du cœur, celle donc de la pensée, c'est intéressant. Et il ajoute, combien c'est vrai, et celle du porte-monnaie. Mais il a raison de commencer par le commencement. C'était un bon théologien dans ce domaine. Le cœur, la pensée, le porte-monnaie. Commencez par là. Et c'est pour ça que le premier message qui retentit sur les lèvres de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, c'est « Repentez-vous ». Le premier message que nous avons sur les lèvres du Seigneur Jésus, lui-même, prenant le relais de son précurseur, c'est encore « Repentez-vous ». Or, qu'est-ce que c'est que ce repentir, la repentance ? C'est intéressant. Vous vous souvenez du petit mot de quatre lettres dans Romains 12, 2, nous, N-O-U-S, d'accord, en français ? Eh bien, la repentance, c'est metanoia. Noia, vous avez nous dedans. Metanoia. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans la Bible du semeur, on met changement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, changement de vie ? C'est un peu léger. Parce que l'alcoolique qui signe à la croix bleue, à la croix d'or, à vie libre, ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, et qui cesse de boire, change de vie. Son cœur n'a pas changé. Tout le monde peut reconnaître que désormais il ne bat plus sa femme, il n'injurie plus les gens, etc., etc., n'est-ce pas. Ses enfants peuvent monter sur ses genoux. Il a changé de vie. Mais son cœur n'a pas changé. parce que dans métanoïa, il y a justement une idée de changement, mais radical, méta, quelque chose de profond, de radical, mais qui part de l'intérieur. Vous comprenez ? De l'intérieur. De mentalité. C'est parce que Dieu est intervenu miraculeusement dans mon intelligence, dans ma volonté, dans ma capacité de raisonner, dans ma conscience, dans le discernement entre les valeurs, dans tout ce monde de mon intelligence, de mon jugement, de mon affectivité, que je suis capable de vivre une vie nouvelle. Repentez-vous, ça veut dire changer totalement d'abord à l'intérieur, là, dans votre mentalité. Commencez à haïr ce que vous avez adoré. Et commencez à aimer celui que vous avez haï. La repentance, c'est un changement radical, une révolution dans la tête qui se traduit obligatoirement par un changement de comportement. Dans ce sens, alors le mot vie porté à son degré suprême, d'accord. Mais quand on dit changer de vie, on ne comprend pas toujours jusqu'où ça va. Repentez-vous. Et alors, Dieu donne cette puissance qui pénètre le cœur purifié, le Saint-Esprit, qui va transformer, métamorphoser progressivement, qui va communiquer la capacité d'obéissance. Cet esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de bienveillance, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Donc c'est à la nouvelle naissance, avec la transplantation cardiaque, que tout commence. Mais c'est un commencement, n'est-ce pas ? Et il faut que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin. Et je suis très frappé de voir que dans Ézéchiel, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau, mais aussi dans Ézéchiel, Ézéchiel 18, 31, il est dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est Dieu qui fait tout, et dans ce tout, je suis appelé à travailler. Et c'est ça ce qui nous intéresse pendant ce week-end. Dans Éphésiens 4, verset 23, dans la parole vivante, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé, toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Et pour cela, il faut que je donne au Saint-Esprit le contrôle du quartier général. Mon cœur doit être dominé par le Saint-Esprit. Je dois apprendre à penser la pensée de Christ. Nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, dira Paul à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 2,16, nous possédons la pensée même du Christ. Vous rendez compte ? Quel objectif ? D'apprendre à penser comme Christ pense. À nous conduire, dira Paul au même Corinthien, en homme spirituel, conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un écrit ceci, le royaume de Dieu constitue un règne totalitaire. Contrairement aux systèmes humains qui doivent se contenter d'une conformité extérieure, le royaume de Dieu s'étend jusque dans nos pensées les plus secrètes. Il n'y a pas une pensée qui traverse notre esprit sans qu'elle suscite l'approbation ou la désapprobation du royaume. Est-ce que nous avons déjà pensé que le christianisme allait jusque-là ? Il n'y a pas une pensée qui traverse notre esprit sans qu'elle suscite l'approbation ou la désapprobation du Seigneur. Ça nous ôte tout désir d'être satisfait de nous-mêmes. Avec un peu de lucidité, nous nous rendons compte combien vite nous pensons de travers dans nos vies. Et combien donc, et nous allons vers la fin de notre étude, combien donc nous avons besoin de ce que j'appellerais la discipline des pensées. Nous avons besoin d'apprendre à discipliner nos pensées. Grâce à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, grâce au règne de Christ dans notre cœur, mais aussi en mettant en œuvre tous les moyens pratiques de grâce qu'il met à notre disposition. Et je dis bien les moyens pratiques. Et c'est ce qui va nous intéresser à partir de demain soir. Il y a des prises de position nécessaires. Il y a des stratégies et des nouveaux réflexes à mettre en place. Rappelons-nous ce que écrit Alfred Kuhn dans sa transcription « Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation ». Et bien entendu, notre objectif pendant ce week-end de rentrée, c'est ça. C'est que nous puissions d'une manière toute particulière dire « Eh bien, Seigneur, maintenant, je veux donner à cet aspect de la vie spirituelle vraiment la place qui lui revient. Elle est fondamentale, je veux apprendre à donner à mes pensées une nouvelle orientation. C'est fini de laisser à mes pensées la bride sur le cou. » Surtout comme nous le verrons, parce que nous sommes dans un monde où on nous dit du matin au soir, de manière directe ou indirecte, qu'après tout, fantasmer, c'est pas un problème. Nous avons le droit de penser ce que nous avons envie de penser, même si c'est, pardon de le dire, dégoûtant, dégueulasse. Nous avons le droit. Ne nous gênons pas de fantasmer. Ça ne dérange personne. Tout nous oriente vers cette mise de la bride sur le cou du monde de nos pensées aujourd'hui, comme jamais dans l'histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles tant de croyants dans nos églises un jour font naufrage. Si nous réfléchissons, ça a commencé dans le monde de nos pensées. L'adultère, ça commence où? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à ces juifs qui étaient fiers de ne jamais avoir commis l'adultère? Il leur a dit, vous l'avez peut-être pas fait en acte. Mais si tu passes dans la rue et que tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. C'est déjà fait. Jésus est allé au cœur du problème et c'est pour cela qu'il a dérangé. Et le péché, ça commence dans le domaine des pensées. Quand Jésus a dit que du cœur de l'homme sortait toutes sortes de pourritures, quelle est la première pourriture dont il parle? Les mauvaises pensées. Et prenez les textes. Dans l'énumération que Jésus fait, quand il évoque le cœur de l'homme, il dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Et puis il dit tout le reste après. Mais ça commence par les mauvaises pensées. C'est un schéma systématique dans les Écritures. Vous n'y échappez pas. L'adultère, ça commence là. Combien d'infidélités commence là, dans notre tête? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Garde ton cœur, je le redis, plus que toute autre chose. Ça veut dire place des sentinelles. Place des gardes pour empêcher l'infiltration ennemie. Nous y reviendrons pratiquement d'ici dimanche. 1 Pierre 1, 13-14, saignez les reins de votre entendement ou affermissez votre pensée. Rassemblez vos pensées, vos énergies. Mettez une ceinture autour des reins pour tenir emprisonnée la tunique de vos pensées. 1 Pierre 4.1, armez-vous de la même pensée. Ce qui a fait dire à Pascal, travaillons donc à bien penser, c'est le principe de la morale. Donc il ne s'agit pas de se laisser conduire par ses pensées subjectives en les prenant pour les pensées de Dieu. Nous aurions pu passer la soirée à évoquer, là aussi, toutes les caricatures du diable. La visualisation par la pensée, la force de la pensée positive, toutes les méthodes couées qu'on a inventées pour faire croire que... J'ai sous les yeux une seule illustration, un étudiant qui a donné la preuve... Du problème, il arrive dans le bureau d'un serviteur de Dieu en disant « Vous savez, pasteur, ça ne va pas. Quel est ton problème ? Quand je veux me mettre au travail, je ressens des fourmillements sur tout le corps, mes bras se lèvent tout seuls, ma vue devient trouble et je n'arrive pas à me concentrer. Ah ? Parle-moi de ta vie spirituelle. J'ai une vie spirituelle très proche de Dieu. Qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, en sortant de la faculté à midi tous les jours, je demande à Dieu, il veut que j'aille manger. » S'il me vient une pensée qui dit « McDonald's », je vais au McDonald's. Ensuite, je lui demande ce qu'il veut que je mange. S'il me vient la pensée de commander un Big Mac, je commence un Big Mac. Je ne fais pas de la pub, hein, c'est comme ça. Qu'en est-il de ta vie d'église? Eh bien, chaque dimanche, je vais là où Dieu me dit d'aller. D'ailleurs, les 3 derniers dimanches, Dieu m'a dit d'aller dans une église mormone. Hein? Mais ça explique souvent notre comportement incohérent, hein. C'est facile de prendre sa pensée pour celle de Dieu, dans notre monde d'aujourd'hui. quand on lit si peu les Écritures, quand on est si peu imprégné de la révélation écrite de la pensée de Dieu. Donc en terminant, simplement, je souligne à nouveau, nous devons veiller à ne pas laisser à nos pensées la bride sur le cou. Faire attention au développement de mauvaises habitudes de pensée qui finissent par modeler notre comportement et nos actions. C'est ça le problème. C'est que vous et moi, nous développons des habitudes de pensée. Vous êtes déjà allé voir une magnifique grotte avec ses stalagmites et ses stalactites, hein, on en a vu. Hein. Ouais. C'est beau. Mais ces grandes orgues, ces draperies extraordinaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des milliards et des milliards de petites gouttes d'eau qui sont tombées dans le silence et l'obscurité, l'une après l'autre, 24 heures sur 24. Chacune avec un tout petit peu de poussière calcaire. Et puis avec le temps, ces stalagmites et ces stalactites se sont formées. C'est exactement le même processus dans nos vies. Nos cœurs, nos têtes, ce sont un peu ces grottes. Si nous ne faisons pas attention, nous allons laisser certains types de pensées, comme des gouttes, tomber l'une après l'autre. On le verra dans le domaine de la rancune, etc. Ça commence dans la tête. Et puis peu à peu, ces colonnes vont monter. Ces ornières dans le domaine de la pensée, qui vont devenir autant de forteresses qu'un jour il faudra bien renverser. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Nous renversons les forteresses de certains types de pensées. Et pour cela, nous utilisons les armes de Dieu. Et nous devons être lucides sur nous-mêmes pour voir si dans nos vies, il n'y a pas des ornières de pensées qui se sont installées. Et quand on est dans une ornière, vous le savez, hein, si ça vous est arrivé en voiture, quand on dévie ou on se retrouve dans un champ, etc., et puis que le champ est humide ou sur un chemin boueux, hein, c'est dur de sortir d'une ornière. Hein. Je pense à l'époque où les routes de ce que sont devenues les USA, à l'époque de la de pionnière, hein, de la conquête en quelque sorte de ces territoires, les routes étaient des chemins sur lesquels passaient ces lourds chariots, hein. Pensez à toutes ces histoires du passé. Eh bien, à l'entrée de ces chemins, on pouvait voir une pancarte. Faites attention de ne pas entrer dans cette ornière. Parce que si vous y entrez, vous n'en sortirez pas pendant les 25 prochains milles. Si le chariot entrait dans l'ornière, il ne pouvait plus en sortir pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tellement l'ornière était profonde. Mais je vous laisse ce soir avec cette pensée de la part de Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre cœur, dans notre tête, des ornières de pensée? De penser que nous avons peu à peu cultivé, développé des mécanismes qui se sont installés là dans notre tête et qui bien sûr ensuite se répercutent sur notre comportement quotidien, dans nos relations avec les autres, avec les choses, avec les êtres, avec nous-mêmes. Voilà où nous voulions en venir. Et voilà la base sur laquelle demain soir nous allons entrer dans certaines approches très pratiques, à la fois de dénonciation de certaines ornières plus particulières qui sont souvent notre lot commun, et puis voir ce que la Bible dit d'une stratégie de discipline des pensées pour que de plus en plus nous apprenions à penser comme Dieu veut que nous pensions. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Dieu travaille avec nous. Tout est grâce, mais dans cette grâce de Dieu, il y a notre action portée par cette grâce. Seigneur, merci de nous avoir mis au contact de cette grande vérité, si souvent négligée, du cœur, de la tête, du monde de la pensée. Seigneur, non seulement nous voulons t'offrir nos corps dans leur aspect visible en quelque sorte. Mais Seigneur, je désire que tu règnes dans le domaine invisible, dans ce domaine de mes pensées, ma volonté, de mes raisonnements, de mes choix intellectuels, ma conscience, mon jugement, de ma vie affective. Seigneur, règne, règne dans nos cœurs, vraiment. Et merci de nous préparer à l'étude de demain soir, à celle de dimanche matin, pour que nous discernions ta volonté pour la suite de cette réflexion pratique. Tu veux nous ouvrir de grands horizons pour notre progression dans cette métamorphose de notre personne par le renouvellement permanent de notre intelligence, de notre mentalité. Merci de mettre ton sceau sur ce que nous avons partagé. En Jésus-Christ. Amen.